Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa.
Il y a aussi des enfants qui sont maladifs, hein, ils peuvent commencer
exactement.
À un moment donné, il est hospitalisé pendant 2 semaines, 3 semaines,
oui,
il n'est pas à l'école. Hein.
C'est vrai, l'enfant malade également peut être victime de la déposition scolaire pendant un temps, ça dépend du cas dont il est victime.
Donc il y a aussi ce problème réel, les frais scolaires, les enfants sont chassés de l'école régulièrement parce que les parents n'ont pas payé les frais et ça... Ça peut être une raison majeure.
Toujours ce problème de stress scolaire. Je voudrais vous rappeler une chose ici, c'est que il vous souviendra qu'en 2000, l'Assemblée générale des Nations Unies avait édicté un certain nombre d'objectifs du millénaire. Et l'Assemblée a demandé aux pays souscripteurs, dont notre pays, que d'ici à l'horizon 2015, il fallait, dans un premier temps, faire un effort pour réduire la faim, la pauvreté et la faim. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, rendre l'enseignement primaire universel. Tout le monde, n'est-ce pas, tous les enfants doivent aller à l'école. Ça, absolument. Il fallait également, troisième objectif, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Quatrième objectif, réduire la mortalité infantile, etc. Cinquième, améliorer la santé maternelle, patati patata, ainsi de suite. Et à cet effet aussi, il y a eu un autre objectif, disons, au niveau des stratégies, à recommander au gouvernement à travers le monde d'accorder, je dirais plus ou moins, 20 à 50% du budget national au financement de... du secteur scolaire, du système éducatif. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, je rappelle, le pays s'est désengagé de ses obligations en responsabilisant plus les parents. Donc, ce sont les parents qui prennent la charge, n'est-ce pas, le financement, qui s'occupent du financement des frais scolaires de leurs enfants au détriment de l'État. Et c'est un problème, en fait, de la gouvernance. L'État est démissionnaire face à ses obligations, et voilà pourquoi, de temps en temps, on constate que les enfants, il y a des enfants qui étudient de façon régulière, c'est généralement des enfants des riches, et qui commencent aussi l'école, souvent, l'âge requis. Lorsqu'il s'agit de la première année, je vous ai dit la fois passée, à partir de 6-7 ans, ces enfants peuvent commencer l'école. Eh bien, les enfants des riches commencent l'école à cet âge-là, tandis que les pauvres, un peu plus tard. Mais seulement, il arrive qu'au début de l'année, puisqu'on interdit, l'État interdit aux écoles de pouvoir réclamer les frais scolaires, eh bien, à la rentrée scolaire, vous verrez un engouement presque de tous les enfants vers l'école. Mais pendant l'année, au fur et à mesure qu'on avance, vous verrez, si vous entrez dans les salles de classe, nous qui suivons les stagiaires, eh bien, vous verrez qu'il y a beaucoup d'enfants qui suivent leur scolarité en dents de scie qui sont chassés par... pourquoi? Parce que nos parents
n'ont pas payé les frais.
Incapables de pouvoir payer les frais qui doivent motiver les enseignants, que l'école doit utiliser pour payer les enseignants.
Donc, c'est une bonne façon de procéder.
Ce n'est pas une bonne façon, puisque justement, parmi les recommandations qui ont été faites par l'Assemblée générale en 2000, eh bien, on demande au gouvernement de ne pas éviter trop charger les parents en ce qui concerne les frais scolaires de leurs enfants. Il faut que l'État puisse prendre cette responsabilité-là en main. Donc, pour l'instant, je suis d'accord pour qu'on puisse abolir ce qu'on appelle les frais de motivation des parents. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Et puis, ça décourage un peu les meilleurs élèves. Vous verrez qu'au niveau, parfois, de temps en temps, au niveau de la délibération, il arrive que les corps enseignants et la direction tiennent compte plus de ces enfants qui sont solvables, donc les enfants de, pratiquement des parents qui payent les frais. Et ces enfants-là sont plus ou moins privilégiés par rapport aux autres qui n'ont pas de moyens, de telle sorte que la délibération devient subjective. Donc, on prend des décisions, non pas en fonction des mérites,
en fonction de l'argent, c'est tout. Et ça, c'est un problème.
Et les enseignants aussi, comme ils sont mal payés, et parfois ils vivent au dépens des enfants, des élèves. De temps en temps, ils leur demandent un coca par-ci, un bonbon par-là, etc. Et
ces enseignants, 500 francs.
500 francs, etc., pour leur transport. Oui. Eh bien, lorsqu'ils prennent des décisions, ils doivent corriger, ils commettent ce qu'on appelle l'effet de halo. Donc, ils jugent l'enfant, non en fonction de ce qu'il a apporté comme résultat, plutôt en fonction de ce qu'il a reçu de la part
de cet enfant-là. Ouais. Des questions de préoccupation, composez le 081-890-63-94.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Kiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale. Économie. Paroles d'enfants. Rencontre avec les Congolais de l'étranger. Inforoute et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Capissoir.
Des perditions scolaires, comment freiner ces phénomènes à l'école primaire? Théorie Moupalo, comment est-ce qu'on peut arriver à freiner ou à réduire sensiblement ce phénomène?
Ok, merci pour la question. Je voudrais citer quelques exemples. À partir de ces exemples-là, essayer de prévoir, disons, les remèdes pour pouvoir lutter contre la déperdition scolaire. Prenons un cas, par exemple. Un enfant gaucher. Un enfant qui a l'habitude d'écrire avec la main gauche.
Oui.
Il arrive à avant d'aller à l'école, il a des problèmes déjà avec les parents qui, d'habitude, voient leurs enfants utiliser la main droite comme eux. Alors, il force cet enfant-là pour que celui-ci puisse utiliser la main droite. Déjà, ça constitue une certaine persécution de la part des parents sur l'enfant. Et cet enfant, malgré tout, ça va à l'école, la même chose. Eh bien, au niveau de l'école, les enseignants sont censés comprendre qu'un enfant peut aussi utiliser la main gauche. Eh bien, lorsqu'il est persécuté au niveau de l'école, tant au niveau, disons au niveau de la famille, et au niveau de l'école, cet enfant se sent en insécurité. Il est, au lieu de se concentrer sur la matière, eh bien, ça ne pourra pas marcher. Hein, et il sera obligé de fuir. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que les enseignants doivent organiser ce qu'on appelle des réunions, des rencontres scolaires, auxquelles doivent participer les parents des élèves, pour leur expliquer que ce phénomène est lié au fonctionnement du cerveau et non pas à pouvoir oublier les enfants, sinon ça risque de provoquer un blocage. Je voudrais vous dire en passant que le président Obama s'est engosté. Le président Bill Clinton dans le temps, gaucher. Vous également, vous êtes gaucher.
Et voilà.
Vous n'avez pas eu la chose facile pour vous maintenir dans votre façon de travailler avec la main gauche.
Oui.
J'ose croire.
Oui.
Donc, voilà. Et je voudrais également, au niveau des parents, demander aux parents, au cours des réunions, avec eux, que cet enfant, son activité principale, c'est étudier. Son enfant est à l'école primaire, il doit étudier, il n'a pas à faire autre chose.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'envoyer aller à l'école du pétrole.
Écoutez, tout ça.
Passer mon soir dans la rue.
Les parents sont mal payés, les parents utilisent les enfants pour des activités auxquelles ils ne sont pas obligés de pouvoir, n'est-ce pas, s'y adonner. C'est tout à fait contre-indiqué. Donc, l'activité principale d'un enfant, avant l'âge disons des 15 ans, disons avant qu'ils ne soient mineurs, 18 ans.
Avant qu'ils soient
majeurs, 18 ans, c'est l'école. Cet enfant doit étudier. Il faut qu'on insiste pour dire ça, et aux parents, et reprendre la chose à l'État. Il y a également, c'est l'une des solutions,
oui.
On peut aussi citer le cas de devoirs à domicile. Il y a des parents qui, à l'heure actuelle, lorsque l'école donne le devoir à domicile à l'enfant, ces devoirs sont faits non pas par les enfants, non, c'est par les parents. Vous comprenez? Et lorsque les parents font les devoirs concernent les enfants, et ils font de bons résultats. À la fin de l'année, peut-être, ils font des résultats qui ne sont pas plausibles. Les parents, avec une perception tout à fait erronée, risquent de s'en prendre inutilement à l'enseignant. Donc, il faut laisser l'enfant faire les devoirs. Lorsqu'il a des difficultés, vous pouvez l'accompagner, l'aider à lui donner quelques explications, même à utiliser un percepteur, un répétiteur à la maison, mais oui, il vous est interdit de pouvoir travailler à la place de l'enfant.
Voilà, c'est voilà donc ce sont là les voies, les remèdes pour lutter contre la déperdition.
Vous pourriez ajouter aussi au niveau de l'État revenu que l'État puisse prendre ses responsabilités. Comment? En créant des infrastructures scolaires, il y a des établissements aujourd'hui qui ne répondent pas aux normes pédagogiques. Quand vous entrez dans une salle, vous savez, la norme prévoit 40 élèves pour un enseignant. Mais
oui, pour nous, aujourd'hui, on a des classes pléthoriques. Avec 80 élèves.
Comment voulez-vous qu'on puisse rendre un travail tout à fait efficace dans ce cas-là? Donc, il incombe à l'État de pouvoir créer des infrastructures scolaires qui répondent à des normes pédagogiques pour éviter la pléthore des enfants dans une salle de classe et puis pour motiver les enseignants et également songer au recyclage de ces enseignants-là, tant au niveau des inspecteurs, ceux qui sont appelés à contrôler l'enseignement, que des enseignants pour leur rappeler un peu la déontologie qui doit être la leur en ce qui concerne l'éducation des enfants. Nous pouvons aussi ajouter...
Avant de continuer, il y a des auditeurs qui sont en ligne. Nous parlons de la déperdition scolaire, comment entraîner ce phénomène à l'école primaire. René Kabamba nous appelle des Kananga au Kassai Occidental. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question, René?
Je voulais poser la question au gouvernement. Est-ce que le gouvernement connaît le nombre des enfants handicapés et quelles sont les mesures qu'ils ont trouvées pour les aider? Parce que moi, je connais un enfant, je suis à Katana. C'est son père, il dit, bon, il n'a pas les handicapés. Où est-ce que c'est son soutien? Alors, qu'est-ce que l'État a pensé pour ces enfants-là?
Merci René. Tanou, vous êtes à Bounia, dans la province orientale. Bonjour.
Bonjour, papa.
On vous écoute, Kanou.
Oui, moi, je voudrais savoir si votre système, quel conseil vous pouvez donner aux parents qui ont décidé de faire des enfants de 6-6 millions de foyers. Ils sont obligés de faire une petite scolaire, puisque les parents font des travaux, par exemple, des travaux qui leur permettent de s'entendre avec eux. Quel conseil vous pouvez donner à ces parents?
Merci, Kanou. Théophile, mon pardon.
Ok. Merci beaucoup. Nous commençons par la question de René Kabamba. Que fait le gouvernement? Est-ce qu'il connaît le nombre d'handicapés, etc.? Bon, les missions concernent la déperdition scolaire pour les enfants normaux. Pour ce qui est des enfants handicapés, il y a ce qu'on appelle des écoles spéciales. Et ces écoles spéciales sont souvent dirigées ou fonctionnent sous la tutelle du ministère des Affaires sociales. Donc, voilà la réponse en ce qui concerne notre ami René Kabamba. Mm-hmm. En ce qui concerne Kanou, quel conseil donner aux parents adoptifs pour éviter une espèce d'exploitation de ceux-ci, etc. Évidemment, l'adoption, c'est déjà un problème. C'est un problème parce que cet enfant qui vient d'ailleurs, que vous adoptez, ce n'est pas votre enfant à part entière, à 100%. De telle sorte que je vous donnerai un exemple concret. Si vous êtes parent, Père Kanou, vous verrez que si vous avez des enfants, vous mettez la nourriture concernant tous les enfants, plus les enfants adoptifs, et bien les enfants adoptifs ont l'habitude de manger plus que vos propres enfants.
Ah bon?
Oui. Pourquoi? Parce que les enfants adoptifs ont, de façon psychologique, qu'on appelle une carence affective. Oui. Ils ne sont pas chez eux. Tandis que les enfants normaux, donc ceux qui sont chez eux, les ayants droit, ils sont chez eux, ils sont comblés par votre affection, de telle sorte qu'il n'y a pas de vide dans leur ventre. Et vous verrez souvent les mamans parfois se plaignent pour dire, mais moi, non, cet enfant n'aime pas manger. Non, il ne faut pas le brutaliser parce qu'il est déjà comblé par votre affection, ce qui n'est pas le cas avec l'enfant adoptif. Eh bien, les enfants adoptifs, ils ont plutôt un ventre plus ou moins vide qui ne se remplit pas, ils ont tendance à bouffer plus que les autres pour pouvoir compenser un peu cette carence affective-là. Mmh. Et ce comportement-là a tendance à se répercuter, même au niveau de l'école. Vous verrez que les enfants adoptifs seront peut-être un peu plus agressifs, moins gentils que les autres enfants normaux qui sont nés, n'est-ce pas?
Oui, ça dépend. Hein, si les parents leur donnent beaucoup d'amour,
oui, justement.
Ils vont bien, ils vont se comporter comme les autres.
Et ils vont se comporter comme les autres, mais il y aura quand même une petite différence absolument. Après, je vous dis que, bon, voilà.
Alors maintenant, il y a des parents qui utilisent ces enfants comme ça, qui les soumettent à des travaux, alors ils ne peuvent pas aller à l'école.
Absolument. Les parents doivent faire un effort pour éviter cette espèce de discrimination-là. Lorsque vous acceptez un enfant adoptif, eh bien, vous devez créer des conditions, les mêmes conditions que vos propres enfants. Il y a des neveux,
il y a des orphelins.
C'est un effort pour que ceux-ci ne puissent pas percevoir cette espèce de différence-là. Vous devez, vos parents, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui concerne la nourriture, mais vous ne pouvez pas livrer à un enfant adoptif, voilà, vous ne mangez pas bien à cause de ce fait-là. Non, il vous appartient de lutter contre cette discrimination-là et créer des conditions pour que tous puissent évoluer dans les mêmes conditions. Et souvent, les enfants adoptifs ont un peu plus de chance à ce que nous soit dit dans la vie. Et ils vont vous aider. On ne sait jamais.
Alors, on apprend surtout à Montpalo. Il y a dans certaines familles, parce que les parents n'ont pas de moyens, les enfants étudient par intermittence. Cette année, un groupe ou deux vont à l'école. L'année prochaine, bon, d'autres vont aller à l'école. Ça peut être aussi une raison à la base de la déperdition.
Merci beaucoup. Et parmi les objectifs du millénaire, figure justement la réduction ou la suppression de la discrimination entre les garçons et les filles. Aujourd'hui, à cause des difficultés, les parents dans certaines provinces, je ne parle pas des filles, ça surtout celles de l'intérieur, ont tendance à scolariser les garçons au détriment des filles. Non, l'Assemblée générale des Nations Unies demande que on puisse assurer leur scolarité de la même manière les filles que les garçons. Alors, aujourd'hui, comme les parents ont des difficultés du point de vue du pouvoir d'achat, parfois, il leur arrive effectivement de pouvoir scolariser certains enfants et de faire reposer les autres, etc. C'est une réalité qui n'est pas encouragée. Mmh. Mais ça, c'est tout à fait,
un problème réel.
Voilà, mmh. Un problème concernant notre pays. Nous espérons qu'avec le gouvernement qui viendra, cette situation ne sera plus d'actualité.
Théophile Mumpalo, expert en sciences de l'éducation, je vous remercie.
Je vous remercie, Judith. Merci beaucoup.